Cela aurait pu être un simple bouchon, mais ce bouchon allait tout faire sauter. Et je ne parle pas d'un bouchon de champagne, ni même d'un bouchon de campagne, mais d'un bouchon en ville. C'est une histoire qui aurait pu être absolument banale, sans rester dans les annales, un simple bouchon routier, comme il en existe à l'approche de la plupart des grandes villes aux heures de pointe ou comme à L'Oriole pendant les vacances, peut-être. Peut-être certains parmi vous connaissez le film Chute libre, 1993, qui évoque ce qui aurait pu être un simple bouchon du quotidien, mais qui, suite à un véritable pétage de plomb de l'acteur principal, Michael Douglas, va révéler des inquiétudes chez cet homme, au point de le transformer en un véritable monstre ambulant. Vous appréciez les bouchons? Qui apprécie les bouchons? Personne n'aime, me semble-t-il, les bouchons, et même, peut-être, beaucoup les détestent, les bouchons. Parfois, à Pierre-Latte, je rigole parce qu'il arrive qu'on s'excite quand il y a 7 voitures devant un feu, les bouchons Pierre-Latin. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez un petit peu plus que ça. Et des bouchons, je vais en reparler dans un instant. En attendant, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais. Ne vous inquiétez de rien, mais. C'est le titre de cette prédication. Quand la foi l'emporte face aux inquiétudes. Alors, nous n'allons pas dresser ensemble maintenant une liste des sujets qui pourraient nous inquiéter, mais j'ai découvert quelque chose qui me semble important, en tout cas suffisamment pour être partagé ici. Indépendamment des sujets d'inquiétude inhérents à la vie ici-bas, aux réalités financières, professionnelles, ou aux inquiétudes liées à la parentalité, au célibat, à la vie en couple, à l'avenir, à la santé, au frigo qui tombe en panne, au clignotant orange de la voiture, ou de la nounou qui est pas en panne mais qui est malade. Il y a une source d'inquiétude qui est probablement plus ou moins forte selon les individus. C'est une inquiétude qui peut être corrigée, quelles que soient les circonstances, ça c'est la bonne nouvelle. C'est une source d'anxiété qui dépend carrément de nous-mêmes et donc qui peut être corrigé. Et je vais dire quelque chose qui peut-être va sembler d'une grande évidence pour la plupart d'entre vous, j'imagine, c'est que l'anxiété augmente à mesure que notre sentiment de contrôle diminue. La sensation de contrôle génère le calme. L'absence de sensation de contrôle engendre la peur, le malaise. Par exemple, examinons nos émotions dans notre voiture lorsque nous sommes pressés, voire en retard, que nous sommes attendus pour un rendez-vous, une visite, et que nous avons déjà, dans le passé, usé la panoplie des excuses pour justifier nos retards, et que nous nous retrouvons en plein bouchon au milieu de la circulation. Vous imaginez la scène? Comment vous vous sentez là? Ça va? Vous êtes à l'aise? Le bouchon peut être considéré comme le symbole de la perte de contrôle par excellence. Nous savons peut-être extrêmement bien conduire, mais nous ne maîtrisons pas le type de la file d'à côté qui n'arrête pas depuis tout à l'heure, je le vois dans mon rétroviseur, il n'arrête pas de zigzaguer entre les fils. Vous le voyez celui-là? Tout ça pour gagner quelques secondes et me faire stresser. Ça nous agace. On l'insulte, dans notre cœur en tout cas. Parce que comme on a mis un petit ictus derrière la voiture, un petit poisson, on ne peut pas l'insulter trop fort, surtout s'il y a d'autres personnes dans la voiture. En fait, on aimerait être à sa place, n'est-ce pas? Gagner quelques secondes précieuses. Nous pouvons être brillants au volant, disais-je, mais nous ne maîtrisons pas la trajectoire de la voiture du jeune conducteur qui, tout en roulant, qui, tout en zigzagant, nous le voyons, envoie des SMS. Et nous le voyons même, consulte une petite vidéo en même temps. Ça nous fait peur. Un simple bouchon, lorsque rien n'est prévisible et que nous ne maîtrisons pas les choses, peut être révélateur de ce qui se passe en nous-mêmes. Comme dans le film Chute libre. Et pour nous qui sommes attachés aux certitudes, cela nous décontenance. Nous aimerions pouvoir contrôler notre arrivée. Tout comme ces nombreuses choses que nous aimerions tant pouvoir contrôler dans la vie. L'orientation professionnelle de nos enfants, mais aussi leurs loisirs, voire leurs goûts et les couleurs. Ce serait plus facile, estimons-nous. Ou encore les traits de caractère de nos proches, amis, frères et sœurs, ou de notre conjoint. Surtout de notre conjoint. Nous aimerions encore contrôler les choix de nos collègues, surtout de nos chefs, ou les décisions de nos voisins, surtout ceux qui sont mitoyens. Le conférencier Max Lucado, dont je tiens un livre ici, écrit « Les personnes les plus stressées sont obsédées par le contrôle. Elles échouent dans la mission qu'elles visent le plus. Plus elles essaient de contrôler le monde, plus elles se rendent compte que c'est impossible. Leur vie devient un cycle, le cycle anxiété-échec, 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 et ainsi de suite. » Mais écoutez ce qu'il affirme aussi, nous ne pouvons pas prendre le contrôle, car ce n'est pas à nous de le prendre. Et je rajouterai, rien d'étonnant à ce que nous n'y arrivons pas, tout simplement car nous n'avons pas été créés pour prendre le contrôle des choses. Nous n'avons pas été créés pour cela. Or, le problème vient que nous essayons de contrôler les choses. Et de contrôler les choses que nous ne pouvons pas contrôler, en particulier. Alors ne doutons pas que Dieu a une bien meilleure idée que nous, que Dieu a une bien meilleure idée pour nous que de contrôler les choses. Et l'apôtre Paul nous révèle un secret partagé par Dieu dans sa parole. Entre nous, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous menions une vie d'inquiétude permanente. Ce n'est pas sa volonté que nous affrontions chaque journée avec crainte et appréhension, que nous allions nous coucher perturbés. Il nous a créés pour bien autre chose qu'une vie d'angoisse et d'inquiétude qui nous empêche de respirer. Il a imaginé un autre chapitre pour notre vie et n'attend que nous pour l'écrire avec lui. Sommes-nous prêts pour cela? Sommes-nous réellement prêts pour cela? La bonne nouvelle, c'est que c'est à notre portée. C'est carrément à notre portée. Et voilà ce dont il s'agit. Je vous invite, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire, à lire tous ensemble la parole de Dieu. Elle va s'afficher et on va la lire ensemble. Pour ceux qui le désirent, à voix haute. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale. et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Alors, quel est le plan de cette prédication? Eh bien, c'est le plan de ce texte. Avec deux attitudes salutaires, on va les repérer ensemble, puis deux clés pratiques, et enfin une promesse. Une promesse si belle qu'elle est répétée deux fois dans le texte. Nous allons à nouveau découvrir, redécouvrir, quand on suit la parole de Dieu, elle nous guide sur le chemin de vie auquel nous aspirons tant. Alors voici cette première attitude salutaire. Première attitude salutaire, dans le Seigneur, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Qu'est-ce qui nous réjouit? Qu'est-ce qui vous réjouit? Qu'est-ce qui naturellement vous réjouit? Où trouve-t-on les raisons de nous réjouir? Eh bien, chaque mot compte ici. Et pendant longtemps, je focalisais uniquement sur le « réjouissez-vous ». Et quand je rajoutais le « réjouissez-vous toujours », je culpabilisais, parce que j'y étais pas. Jusqu'à que je comprenne que peut-être la clé dans ces quelques mots, c'est le « dans le Seigneur ». Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il me semble qu'il y a la subtilité ici. Qu'est-ce que signifie se réjouir dans le Seigneur? Et déjà, est-ce que ça signifie qu'il faut en conclure que certaines choses qui ne sont pas dans le Seigneur nous réjouissent? Oui, il est possible de comprendre que certaines choses qui nous réjouissent ne sont pas dans le Seigneur. Qu'est-ce qui pourrait nous réjouir dans le Seigneur? Eh bien, probablement que tout ce qui concerne Dieu et son infinie grandeur, qui a de quoi donc nous réjouir, peut-être notre réponse. Qu'est-ce qui nous réjouit? Peut-être ces grandes réalités que nous pouvons proclamer facilement si nous sommes chrétiens de longue date. Par exemple, que Dieu est bon. Mais est-ce que nous prenons le temps de nous rappeler la bonté de Dieu? Ou encore que Dieu fera ce qu'il a promis. Les promesses de Dieu, le fait que Dieu soit digne de promesses. Ou encore que Dieu est souverain sur chaque chose de notre vie, chaque élément de notre quotidien. C'est formidable. De quoi nous réjouir? Il maîtrise chaque chose. Moi pas. Mais lui, oui, c'est l'essentiel. Il vaut mieux que ce soit lui qui maîtrise que ce soit moi, n'est-ce pas? Dieu est suffisamment puissant. Il est non seulement bon, souverain, mais il est puissant. Rien ne lui échappe. Et Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Quoi que nous vivions, il se soucie de chacun d'entre nous. Ça, si je nourris cette attitude de reconnaissance, je vais pouvoir me nourrir ma joie et dire de chaque jour que c'est un jour de joie, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et ce qui est formidable, c'est que prenez-les les unes après les autres, ces affirmations. Aucune d'entre elles ne peut être altérée par quelque chose que vous vivez dans le quotidien. Rien ne peut l'altérer, ne peut les altérer. Il y a toujours de quoi se réjouir dans le Seigneur. C'est le dans le Seigneur qui compte. Et d'autres promesses nous sont précieuses. Elles nous sont souvent rappelées lorsque la scène est introduite, par exemple. Comme le fait que le grand Dieu, ce Dieu que nous décrivons là, a choisi d'être avec nous. Pas contre nous, avec nous. Alors que nous le mettons si facilement de côté. Autre grand sujet de réjouissance, c'est que Dieu relance une nouvelle journée avec nous, chargée de provisions d'amour, en réserve, alors que nous avons fini la journée de la veille en faisant comme si YouTube était plus important qu'un cœur à cœur avec lui. Si Paul prétend que c'est ce qui nous réjouit dans le Seigneur qui doit nous préoccuper principalement, c'est simplement parce que c'est cela, véritablement, qui va nourrir notre âme. Et Paul souhaiterait nous faire cultiver ce mode de vie. Depuis sa prison, d'où il écrit, Paul n'attend pas de nous que nous agissions sur le monde entier, mais, ce qui est à notre portée, plutôt, de placer toute notre confiance entre Dieu. Je te fais confiance. J'ai des sujets d'inquiétude, mais je te fais confiance. Et notez encore que, au verset 4, malgré le coût élevé du papyrus à l'époque, tellement c'est important, Paul va le répéter, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et la seconde attitude salutaire, la première c'est donc de se réjouir dans le Seigneur, ici la seconde attitude salutaire, ça va être de ne s'inquiéter de rien. Et là quand on entend ça, on se dit, mais attends, c'est facile à dire, surtout pour ceux qui n'ont pas de sujet d'inquiétude. On se rappellera tout à l'heure que de là où écrit Paul, il n'était pas exempt d'inquiétude, en tout cas d'occasion d'être inquiet. Parce que les raisons de nous inquiéter ne manquent pas, c'est la grande réalité. Elles sont nombreuses, très nombreuses, trop nombreuses. En fait, on pourrait s'inquiéter de tant de choses. On pourrait s'inquiéter, en réalité, de tout. Si nous n'y prenions pas garde, nous pourrions nous inquiéter de tout, d'absolument tout. Tout pourrait, à un moment ou à un autre, véhiculer un sentiment d'inquiétude. Alors maintenant, une fois qu'on se dit ça, on va pas se jeter la pierre. D'une part parce que c'est pas notre rôle, on n'a pas été mandaté pour jeter la pierre aux uns aux autres, et en particulier à ceux qui sont inquiets. Ceux qui sont inquiets, on veut pas leur rajouter une couche d'inquiétude par notre manière de les culpabiliser. Yaka Faucon! D'ailleurs, il me semble que le sentiment lié à l'inquiétude peut être légitime, quelque part. En tant qu'émotion humaine, elle fait partie de la panoplie des émotions imaginées par notre Créateur, je le crois. Tout comme la peur, avec qui l'inquiétude en est parentée. En ce sens, le sentiment d'inquiétude n'est pas premièrement un péché. Mais, toutefois, cependant, ce sentiment d'inquiétude, si nous ne le prenons pas, si nous le laissons nous gagner, il peut virer de bord. Si nous le laissons nous gagner, le sentiment d'inquiétude peut nous faire virer de bord, prendre de l'ampleur au point de nous jouer des tours, nous desservir et devenir alors un péché. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prévu par Dieu, qui est mauvais pour nous. Et c'est le cas lorsque nous ne le gérons pas correctement, ce sentiment, et que nous le laissons recouvrir notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu. Alors ce sentiment nous amène à pécher dans notre pensée. Comment ? Tout simplement en négligeant le souvenir de la souveraineté de Dieu sur toute chose, en négligeant la fiabilité de ses promesses, ou encore en ne pas estimant digne Dieu quand il dit quelque chose. Je disais tout à l'heure que si les inquiétudes nous rejoignent, nous ne sommes pas obligés de les accueillir, de telle sorte à ce qu'elles demeurent en nous. Mais ce qui est génial, c'est que Paul va nous montrer comment les gérer. Que dit-il ? Mais en toute chose, voilà comment il va nous éclairer avec cette première clé pratique. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Probablement la reconnaissance de savoir que Dieu maîtrise toutes choses. Et tout ce qui nous a été rappelé tout à l'heure, on est reconnaissant du Dieu à qui nous nous adressons. Et la prière exemplaire du Notre Père, j'ai cru comprendre que vous l'avez étudiée en prédication l'un ou l'autre dimanche, eh bien, cette prière nous rappelle que Jésus lui-même recommande à ses disciples d'oser formuler à son Père des requêtes. Ce qui ne manque pas de réchauffer le cœur de Dieu, tellement Dieu se plaît à nous écouter lorsque nous lui parlons. Alors lorsque nous lui parlons, nous ne l'informons pas, bien sûr. Nous ne l'informons pas, lui le Dieu omniscient qui sait toutes choses. Mais le fait de choisir de partager avec lui ces choses importantes pour nous favorise notre communion avec lui. Tout comme deux individus qui prennent le temps de partager des choses sur eux-mêmes vont s'offrir une communion, même s'ils savent déjà certaines des choses qu'ils vont partager. Et je dis volontairement communion, parce que comme vous le savez, pour vous qui avez fait du latin peut-être, comme, avec, l'union avec. Je savais que ça allait me servir un jour le latin. Pourquoi notre cœur résiste-t-il tant à remettre à Dieu ce qui lui pèse, ce qui préoccupe notre cœur et ce qui compte pour lui, alors que toute la Bible insiste pour que nous le fassions? Pourquoi, alors qu'un tracas nous préoccupe, préférons-nous presque instinctivement ne pas appliquer ce que Paul dit si facilement et que nous connaissons pour les chrétiens de longue date, depuis les décennies, des décennies, avec ces cartes postales que nous affichons sur nos frigos et ce verset? Pourquoi, quand nous sommes en souci, sortons-nous couper du bois? Faisons-nous chauffer la carte bleue ou glissons-nous la souris sur un site classé X? Alors le problème n'est pas d'aller couper du bois, surtout encore en cette saison. Le problème, c'est d'aller couper du bois en pensant que je ne penserai plus à mes inquiétudes. Là est le souci, si je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, il peut être très bon d'aller couper du bois. Mais pas en pensant que ça va remplacer le fait d'aller partager mon inquiétude à Dieu. Et pareil pour le shopping. Le shopping ne règle pas mes inquiétudes. Parfois même, ça peut empirer. Couper du bois ne remplace pas la prière. Pourquoi nous imaginons-nous qu'essayer d'endormir notre tracas le fera disparaître à tout jamais? On est quand même bizarre parfois, hein, je parle pour moi. Nous pensons qu'en faisant comme s'il n'y avait pas de souci, eh bien il n'y avait pas de souci. Nous faisons comme si le camouflage serait suffisant, comme si le tapis, il n'y a pas de tapis là, mais comme si le tapis serait suffisamment spacieux pour y déposer des choses. Pourquoi, lorsqu'il s'agit maintenant du poids lié à un péché, nous nous illusionnons à croire que le minimiser, en nous cherchant des excuses, voire nous justifier, nous permettra d'aller de l'avant? Comment imaginer avancer sur le chemin de vie si je ne vis pas en réglant les péchés? Pourquoi rêvons-nous qu'en étouffant la culpabilité sous une montagne de to-do list d'activités, nous ne détesterons plus de nous retrouver seuls avec nous-mêmes? Pourquoi nous imaginons-nous pouvoir compenser en nous mettant davantage de pression et en nous rajoutant de nouvelles règles draconiennes, des nouvelles résolutions, des nouvelles organisations, du style « il faut que je fasse plus ceci, il faut que je fasse plus cela » alors que si ça se trouve, Dieu est en train de me dire « je te demande pas de faire plus ceci ou plus cela, je t'attends juste pour que tu viennes me parler. Le cœur à cœur me manque. Tu as été créé pour ça et le cœur à cœur avec moi me manque. » Toujours à propos de compenser, est-ce qu'il faut qu'on continue de tomber dans l'illusion en pensant qu'on doit être un chrétien bien coiffé, bien peigné, bien habillé, la famille parfaite, le métier parfait, la parole parfaite, la voiture parfaitement propre, pour compenser le fait que nous avons simplement oublié l'essentiel de favoriser le cœur à cœur avec notre Créateur? Parfois, nous pouvons même rediriger notre frustration là, elle n'a pas lieu d'être. Et c'est cet exemple bien connu de cet homme qui, contrarié au travail par son chef, emmagasine la colère en lui jusqu'à la sortie du bureau, de l'usine, pour la faire rejaillir sur le premier automobiliste qu'il dépasse sans mettre le clignotant. Ça nous arrive à tous, peut-être, d'oublier le clignotant. Puis, sur sa femme en rentrant, pour une broutille. Parce que on ne se dispute jamais pour une broutille, vous êtes d'accord avec moi. Derrière la broutille se trouve un vrai sujet de fond, qui est exacerbé parce que j'ai pas su gérer mes inquiétudes. Et donc, je disais, cet homme qui rentre du boulot et qui s'en prend à sa femme qui a rien demandé, qui a accessoirement eu aussi une journée, et sa femme qui ne sait pas gérer non plus cette situation, qui s'en prend aux enfants, l'aîné qui est là, qui a rien demandé, il est juste passé sur le chemin, oh, et c'est l'aîné qui prend, qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Ne sait pas gérer non plus, peut-être il n'a pas appris, peut-être il n'a pas eu un exemple pour gérer ses inquiétudes, il rentre dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fait? Il voit son petit frère, qui est en train de jouer avec quelque chose, et le petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a reçu cette, et qu'il repart dans sa chambre, et qu'il voit le chat, et que la fenêtre est ouverte, il balance le chat dehors. Pauvre chat, il a rien demandé. Le chat, il existe que pour les croquettes et les caresses. Il a rien demandé. Mais vous avez compris l'histoire. Et toutes ces situations que je viens d'exposer, en fait, génèrent et nourrissent l'inquiétude. Et il faut bien qu'on soit au clair sur le fait qu'en fuyant, c'est-à-dire en ne répondant pas activement, en n'appliquant pas l'appel de Paul dans ces versets que nous connaissons par cœur, archi par cœur, si nous sommes chrétiens de longue date, en fait, si nous évitons ça, en fait, nous sommes en train d'éviter la seule chose qui pourrait nous sauver de nous-mêmes. Paul ne dit pas « mettez les choses discrètement sous le tapis ». Il dit « en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » À propos de tapis, lorsqu'Adam et Ève se sont pris les pieds dans le tapis et qu'ils ont pris la gamelle du siècle, gamelle du millénaire, ils ont cru que leur secours serait dans une feuille de platane. Alors soyons raisonnables, soyons intelligents, écoutons ce que le Dieu qui nous connaît parfaitement nous demande par la plume de Paul, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Voilà la première clé pratique. Quant à la deuxième clé pratique, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Comprenons-nous le temps de nous poser pour nous questionner sur quoi se portent nos pensées? Nous avançons en fonction de là où se portent nos pensées. Nos pensées nous influencent, nous orientent, nous tracent des chemins. Ne laissons pas le diable ou quoi que ce soit devenir le maître de la partie la plus précieuse de nous-mêmes, à savoir nos pensées. N'offrons pas au diable et à ses sbires d'être le maître de notre quartier général, c'est-à-dire notre cœur. Ce serait folie. Quand on connaît ce que le diable veut faire, et je cite Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. Si c'est le diable qui contrôle le volant de notre vie et de nos pensées, nous passerons à côté des délices de Dieu et nous ne les verrons plus et nous ne verrons plus l'infinie grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Alors réfléchissons à ce qui fait l'objet de nos pensées. Vous connaissez ce texte, écrit par Paul par ailleurs, 1 Corinthiens 10. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas convenables. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. À commencer par moi-même. Je pense à deux anecdotes qui me viennent à l'esprit. L'une, c'est un ami, enfin mon beau-frère même, qui est pasteur en région parisienne, et à un moment donné, il visite une femme inquiète. Une femme très inquiète, et elle a besoin de le rencontrer. Rendez-vous est pris, il arrive chez elle, puis au bout de petite heure, il n'a pas encore réussi à en placer une. C'est pas le souci, ça arrive. Elle avait besoin de parler. Il lui suggère, au bout d'une heure, entre deux gâteaux, est-ce que je peux me permettre une chose? Est-ce que ça va si on éteint la télé? La télé qui est allumée du matin au soir. Et la télé qui ne nous pousse pas à nous rapprocher de la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est une première anecdote. L'autre anecdote, c'est que suite à cette prédication que j'ai apportée dans notre église il y a quelques semaines, quelqu'un m'a dit qu'il avait enlevé des applications sur son smartphone. Ça me semble être intéressant comme attitude. De pas se gargariser, de se nourrir d'applications qui sont des applications qui ont été créées pour qu'on soit dépendant d'elles, et de choisir de nourrir notre âme par autre chose. Toutes choses me sont permises, dit Paul, mais toutes choses ne sont pas convenables. Toutes choses ne m'édifient pas, ne nous édifient pas. Dans un an, quand vous tirez un bilan sur votre année 2024, est-ce que vous allez vous dire, je pense qu'en ayant passé autant de temps sur TikTok, YouTube et Facebook, j'ai été drôlement édifié? Ou est-ce que vous vous direz, avec le temps que j'ai pas pris sur ça, mais que j'ai pris à lire des bons livres qui nous montrent comment je peux côtoyer Dieu et qui nous montrent comment je peux répondre à l'appel dans mon quotidien, comment j'ai pu grandir cette année. Tout nous est permis, c'est la liberté en Christ, mais tout n'édifie pas, tout n'est pas utile. Alors à qui offrons-nous notre cerveau? À qui offrons-nous notre cœur? À quoi allons-nous exposer notre cœur? À qui allons-nous offrir les meilleurs moments, les moments décisifs de notre journée? C'est-à-dire, il me semble, les premiers moments de la journée et les tout derniers. À qui les offrons-nous? À monsieur TikTok, à monsieur YouTube? À qui offrons-nous ce que nous offrons? Parfois, il est possible d'être pas très motivé pour offrir aux autres, parce que peut-être je suis dans une attitude, dans une saison de vie très consommateur. Et peut-être que du coup, dans cette saison de vie où je suis très consommateur, je ne pense pas spécialement à offrir à l'Église de Christ, à servir l'Église de Christ, ou à servir ma famille, ou à servir mon conjoint, mes voisins, etc. Cette clé de l'apôtre Paul, à mon avis, et le meilleur moyen de ne pas voler, de ne pas laisser les saboteurs nous voler ce qui est le plus précieux dans nos vies. Il y a plein de choses que nous ne choisissons pas dans la vie. Le lieu ou la date de naissance, vous ne les avez pas choisis. Nos parents, notre famille, la météo, ou la quantité de voitures que nous avons avant d'aller au travail, sur notre chemin, etc. Toutefois, la plus noble activité de notre vie est bien sous notre contrôle. Nous pouvons choisir ce à quoi nous allons attacher nos pensées et ce qui va nourrir nos pensées. Ça, c'est notre part à chacun d'entre nous, notre responsabilité et aussi notre grand privilège. Nous pouvons être le contrôleur aérien de notre aéroport mental. Nous sommes dans la tour de contrôle et nous pouvons organiser le trafic mental de notre univers. Vous vous rendez compte comme c'est, quand on y pense, c'est formidable. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a imaginés avec ses capacités Et les pensées tournent au-dessus du terrain, allant et venant, mais si l'une d'entre elles se rapproche, nous ne sommes pas obligés de la laisser atterrir, c'est formidable, nous pouvons le plus rapidement possible la remettre au Dieu souverain de toutes choses. Nous pouvons choisir notre modèle de pensée, et en ce début de nouvelle année 2024, eh bien saisissons cette opportunité de nous rappeler cette parole du sage, et vous reconnaîtrez ce proverbe biblique, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe 4, 23 ou 32, j'ai un doute. Proverbe 4, 23, merci. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ta vie. La vie est un combat. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et nous nous faciliterons les choses en effectuant de bons choix. La vie est une question de choix. Notre vie est une question de choix. La saison dans laquelle tu es est une question de choix que tu fais. La vie est une question de choix et notre combat consiste à opérer les bons choix. Et ici, au verset 9, Paul est sans ambiguïté. La réussite de notre année, d'ailleurs, dépendra dans l'écoute attentive, obéissante de la parole de Dieu. Eh bien, la part de Dieu, c'est de nous couvrir de sa paix. Le couvrir de sa paix. Et c'est quelque chose qui nous offre lorsque nous disposons notre cœur tel que Paul nous le recommande ici. Pensez, à l'apôtre Paul. J'ai tiré une photo sur Internet récemment de l'apôtre Paul qui a été prise par son geôlier récemment. Plus sérieusement, si quelqu'un avait des raisons d'être inquiet, Paul pouvait faire partie de ces personnes-là. Est-ce que vous visualisez cet homme âgé qui regarde par la fenêtre d'une prison romaine ? Peut-être autour de 60 ans, à l'époque c'est pas mal. Chrétien depuis 30 ans, vous le voyez, voûté. Les kilomètres parcourus, les coups reçus, expliquent son dos courbé. Il a reçu 39 coups de fouet à 5 occasions différentes. Battu avec des bâtons à 3 reprises. Les cicatrices parcourent sa peau comme des veines gonflées. Il a même été laissé une fois comme mort. On l'a cru mort. Emprisonné, abandonné par ses amis et ses compagnons, il a supporté des naufrages, des tempêtes et la faim. Je ne parle pas des insomnies. À moitié aveugle, plissant les yeux pour lire, il est en attente de comparaître devant l'empereur Néron, qui n'est pas un enfant de cœur. Néron a appris à s'attirer les faveurs des citoyens romains, vous savez comment ? En exécutant des chrétiens dans les arènes. Il les faisait jouer avec les lions. Et Paul est l'un des plus célèbres chrétiens. Et comme si la pression de la part de l'Empire ne suffisait pas, Paul porte également le poids des églises nouvellement formées. Son cœur pour les chrétiens, son cœur pour les sauvés, son cœur pour ceux qui n'étaient pas encore sauvés. Et dans ces églises qu'il a formées, eh bien, en particulier ici, dans ce contexte, les membres se chamaillent. On voit dans Philippiens, l'un ou l'autre chapitre, des prédicateurs, des faux prédicateurs qui prêchent par orgueil ou par jalousie. Voilà, en quelques mots, le contexte de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit ce texte dans Philippiens, au chapitre 4. Avec peut-être, on pourrait se dire, un avenir aussi sinistre que sa cellule pour l'époque. Eh bien, pourtant, alors qu'il est confiné et qu'il n'a pas choisi d'être confiné, Paul va rédiger ce que les théologiens appellent l'épître de la joie. Jour de joie. Ça peut être tous les jours. L'épître de la joie. On aurait presque l'impression qu'il vient d'arriver dans un hôtel 4 étoiles sur la plage des Bahamas. Et quand on regarde scrupuleusement son épître, aucune trace de peur ou de plainte. Il ne brandit jamais le poing contre Dieu. Au contraire, il rend grâce à Dieu d'être qui il est et il invite ses lecteurs à faire de même. Voilà l'œuvre de Dieu, voilà l'œuvre de son Dieu auquel il place toute sa confiance. Alors, après ces deux clés et ces deux applications, j'aimerais terminer par cette promesse. Le texte du jour nous révèle un secret divin, à savoir que la paix est à notre portée, chacun d'entre nous. Non par absence de problème, ça c'est dans le monde des bisounours, mais en raison de l'assurance de la présence d'un Seigneur souverain, fidèle, bon, puissant, qui prend soin de nous. Alors plutôt que de ressasser le chaos du monde, du moins le nôtre, réjouissons-nous, apprenons à nous réjouir dans la souveraineté du Seigneur. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Assurément, entrer dans cette attitude nous rendra paisible notre cœur. Et alors, notre douceur pourra se répandre. Nous inquiets, rassurés par le Dieu qui rassure, notre douceur pourra se répandre. Et ce sera la marque que le Seigneur est proche. Peut-être proche dans le temps, probablement, mais proche de nous aussi. Et c'est toute la bénédiction que je vous souhaite en tant qu'Église de Christ, ici à L'Oriol, et c'est toute la bénédiction que je nous souhaite à chacun d'entre nous. Quoi que vous viviez, quelles que soient les circonstances du moment, le Seigneur vous aime profondément et il est avec vous, il est avec nous. Prenons la parole de Dieu au sérieux, avec joie. Merci pour votre attention.